Afghanistan, Irak. Où est la puissance vraie, la vraie puissance militaire des États-Unis si on ne peut pas gagner contre les Vietnamiens?
Dans Confession américaine, vous écrivez à propos des États-Unis et à propos de Trump, il nous a tellement éloignés les uns des autres que nous ne nous retrouverons peut-être jamais. C'est le président de la fracture.
Peut-être oui, mais je pense que le problème remonte jusqu'à Reagan aussi, parce que le moment qu'un président peut dire que le gouvernement est le problème, il y a un gros problème entre la confiance peuple-gouvernement.
Donc vous êtes inquiet pour l'unité des États-Unis aujourd'hui, et l'unité sociale, pas forcément l'unité entre territoires.
Oui, un problème que j'ai, en fait, c'est le fait qu'on ne se connaît plus. On est derrière les écrans tout le temps. On ne sort pas. On ne connaît pas le voisin. Et une raison que j'ai fait la deuxième descente du fleuve Mississippi en canoë, ouais, c'était de voir à quel point le pays que je traversais, qui était Trump Country, n'était pas vraiment ce qu'on voit aux infos.
Ouais.
De connaître les gens face à face, ça change complètement l'enjeu. Et je pense que les gens...
Et donc vous allez retourner à la rencontre de ce pays-là.
Oui, c'est ça.
Merci Eddie Harris d'être venu. Vous reviendrez après votre voyage, ici, nous raconter.
Si je suis invité, je serai là.
Merci, à bientôt.
Écoutez ce vendredi sur RFI, Littérature sans frontières, avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Le 5e prix littéraire Voix d'Afrique est officiellement annoncé ce vendredi 20 mars, l'occasion d'une émission spéciale en délocalisation à Kinshasa, à la rencontre de la lauréate ou du lauréat de ce concours du premier roman organisé par RFI et les éditions Lattès.
Littérature sans frontières, vendredi à partir de 13h30 TU sur RFI.
Retrouvez RFI sur YouTube. La radio mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde.
Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24h sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI dans la barre de recherche de YouTube, cliquez sur le logo de RFI et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
Il est 7h30 à Paris, N'Djamena, 6h30 à Dakar. Édouard Dupénoat, 2 mois après le coup de sifflet final, le Maroc est champion d'Afrique de football.
Ainsi en décide le communiqué discret de la Confédération africaine de foot, hier soir tard. Les Sénégalais ont quitté la pelouse, dit le jury d'appel. Ça vaut forfait, tapis vert, 3-0 pour les Lions de l'Atlas. La Fédération sénégalaise dénonce une décision inique. Elle se portera devant le tribunal du sport. Analyse, réaction, reportage dès le début de cette édition. Autre grand titre ce matin de l'actualité africaine, le procès possible du dernier suspect de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre de la RDC. Figure de l'indépendance, mort en 1961, la justice belge ordonne le renvoi en procès d'un homme de 93 ans. Au Mali, plusieurs dépouilles retrouvées ces derniers jours après que l'armée avait interpellé une trentaine de personnes vendredi. Les proches de ces victimes redoutent de nouvelles découvertes. Et puis au Sénégal, 3 soldats morts hier en Casamance dans ce qui semble être un accident d'artillerie. L'armée mène des opération contre les plantations de cannabis, notamment dans cette région du sud du pays.
Séisme sous les pelouses africaines.
Le Maroc déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le titre de champion d'Afrique, remporté le 18 janvier dernier par le Sénégal, lui est donc retiré. Ainsi en décide le jury d'appel de la Confédération africaine de foot, qui avait été saisi par la Fédération marocaine. Nouveau rebondissement 2 mois aujourd'hui, jour pour jour après cette finale et sa fin chaotique. Nouveau et sans doute pas le dernier. D'ailleurs, Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour.
Un arrêt sur image avec vous pour y voir plus clair. Le jury d'appel sanctionne le Sénégal après qu'une très large partie de l'équipe avait quitté la pelouse en plein match.
Oui, c'est l'un des moments critiques de cette finale de CAN chaotique quand l'arbitre siffle un pénalty en faveur du Maroc à la 98e minute de jeu, alors que le score est de 0-0. La majeure partie des joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pep Thiaw, décident de rentrer au vestiaire. Les Lions finissent par revenir sur le terrain et par gagner le match. En examinant les incidents de cette soirée, fin janvier, le jury disciplinaire de la CAF avait pris des sanctions, mais il n'était pas revenu sur le résultat. Hier soir, le recours du Maroc a été entendu par le jury d'appel de la CAF qui invoque le règlement de la compétition. Si une équipe quitte le terrain avant la fin du match, elle est considérée perdante. La décision annoncée hier vers 21h30, temps universel, déclare donc le Sénégal forfait et battu 3-0 sur tapis vert, comme on dit. Un véritable bouleversement commenté sobrement par la fédération marocaine. Dans un communiqué, elle indique que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes, mais uniquement de demander l'application du règlement. Au cœur de la nuit, la fédération sénégalaise a promis de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, dans les plus brefs délais pour contester une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain.
Cette saisine du TAS dont vous nous parlez, Christophe Jousset, elle semble d'ailleurs tout à fait logique. Aux yeux de Patrick Juillard, notre consultant Radio Foot qui était là hier soir, il ne conteste pas la règle de l'abandon du terrain, mais il rappelle aussi d'autres règles fondamentales, et notamment le rôle prépondérant que l'arbitre a tenu au moment de ce litige.
La CAF se rappelle qu'elle a un règlement sur les abandons, les forfaits. Alors effectivement, si constatant la sortie des joueurs du Sénégal, l'arbitre s'en était lui aussi rappelé, avait sifflé la fin du match, le règlement aurait pu s'appliquer. Ou du moins on aurait dû dire aux joueurs du Sénégal, revenez vite sinon vous allez perdre cette finale sur tapis vert. Ça n'a pas été le cas, le match a continué, le Maroc a raté son pénalty dans les conditions qu'on sait et le Sénégal l'a emporté en prolongation. Et maintenant, 2 mois après, on se rappelle de ce règlement et on décide de l'appliquer. Donc c'est totalement, ça me semble totalement aller à l'encontre des règles qui veulent que l'arbitre soit le maître du jeu et que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin d'un match, celui-ci continue et l'homologation du résultat se fait lorsque l'arbitre siffle la fin du match, en l'occurrence à la fin de la prolongation. Et le Sénégal a même reçu son trophée devant un stade déserté par les supporters marocains déçus. Donc je pense que cette décision risque de ne pas tenir devant une juridiction d'appel et notamment le tribunal arbitral du sport.
Patrick Juillard, hier soir dans Radio Foot avec Olivier Pron. Claude Leroy est encore plus critique. Lui désigne ouvertement une décision grand-guignolesque, ce sont ses termes, et les incompétents qui dirigent le football africain. Vous lisez ces mots sous la plume de Nicolas Bamba sur notre site RFI.fr. Sentiment que l'on partage sans surprise dans les rues de Dakar. Nous sommes allés tendre nos micros hier soir dans la capitale sénégalaise et l'on entend donc ces Dakarois qui vont de l'incrédulité à la colère.
Vraiment, je suis désolé du football africain. Parce que 2 buts valables sur le terrain. Maintenant, par la magouille ou bien par quoi que ce soit, il retire la coupe au Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec la CAF.
Nous sommes tous dégoûtés, mon ami et moi, depuis tout à l'heure. On discute sur cela. Donc on trouve anormal qu'aujourd'hui, nous gagnons une finale sur le terrain et 2 ou 3 personnes derrière leur bureau décident de nous retirer notre belle victoire. C'est plus que fou. Le football n'a plus de sens aujourd'hui.
Vraiment, c'est scandale, on peut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner la coupe 3 mois après et quelqu'un appelle pour dire, écoute, on va récupérer la coupe. Sur quelle base ? C'est inadmissible, on ne peut pas le comprendre. C'est quelque chose qui vient juste de tomber du ciel. On a gagné la coupe.
Invité Afrique de la rédaction de RFI Après Journal, Hervé Penaud, journaliste au quotidien français L'Équipe, lui aussi bon connaisseur du foot africain, sur notre antenne donc dans une dizaine de minutes. Et puis à vous de nous dire enfin ce que vous pensez de cette décision du jury d'appel de la CAF. C'est Juan Gomez et les équipes d'appel sur l'actualité qui ouvrent le débat dans 1h30 maintenant. Coup d'envoi à 8h10 en temps universel.
La suite de votre journal, Edouard, l'actualité africaine au Mali.
Oui, les dépouilles de 8 personnes, au moins, ont été retrouvées ces derniers jours, entre dimanche et lundi, dans le cercle de Yélimané, c'est dans la région de Kaï, alors que vendredi dernier, le 13 mars, l'armée malienne avait interpellé 30 de personnes qui étaient en train de se rendre à la mosquée pour la grande prière, d'où la crainte des habitants, qui craignent que les découvertes macabres ne se limitent pas à ces 8 dépouilles. La rédaction en Mandinkan et en Full Day de Radio France Internationale à Dakar, a pu joindre un habitant de cette zone. Il a perdu plusieurs de ses proches. Il accepte de nous livrer son témoignage.
Parmi les corps qui ont déjà été découverts, plusieurs sont de ma famille. Un jeune frère de lait, c'est-à-dire même père, même mère. Son corps a été retrouvé dans la zone de Senewali, cercle de Yélimané. Il y avait 30 de personnes au moment des arrestations par l'armée. Mais pour l'instant, seulement 8 corps ont été découverts. À côté de mon jeune frère, il y avait 4 autres corps. 2 sont mes cousins. Les autres sont ceux d'une famille de voisins. On les a tous reconnus.
L'armée malienne n'a pas communiqué sur ce sujet. Elle n'a pas donné suite non plus aux sollicitations de RFI. 3 militaires sénégalais sont morts hier. Trois autres ont été blessés dans un accident survenu en Casamance. Depuis une semaine, l'armée mène une nouvelle campagne de destruction, notamment des plantations de cannabis dans cette région du sud du pays, près de la frontière avec la Gambie. Mercredi dernier déjà, un soldat avait été tué et six autres blessés lors d'un accrochage avec un groupe d'individus armés. Léa Lisa-Vesterov, que sait-on cette fois des événements d'hier ?
L'armée sénégalaise est restée vague dans son communiqué, mais selon plusieurs sources, les trois militaires seraient morts suite à l'explosion d'un de leurs mortiers en surchauffe, officiellement au cours d'une opération de destruction d'un champ de chanvre indien. Mais le recours à des tirs de mortier montre bien qu'il y a des affrontements, affirme une source bien renseignée, selon laquelle l'armée a pour habitude, dans un premier temps, de tirer pour déloger d'éventuels groupes armés avant de procéder à la destruction des plantations de cannabis. Voilà plus d'une semaine que l'armée sénégalaise a en tout cas relancé une vaste opération de destruction de ces plantations situées dans le nord Sinian, dans les localités de Diakine, Ifanga et Kadialok, tout près de la frontière gambienne, en Casamance. Une opération également pour neutraliser les individus armés qui exploitent ces champs, sans bilan précis pour le moment. Dans cette même zone, mercredi dernier, un soldat sénégalais avait été tué déjà et six autres blessés lors d'un accrochage, cette fois avec un groupe d'individus armés. Ces attaques, rarement revendiquées, sont attribuées par l'armée sénégalaise à des groupes criminels, sans jamais nommer les rebelles séparatistes du MFDC, qui prospèrent grâce à la culture du chanvre et du trafic de bois. Léa Lisa-Vesterov, Dakar, RFI.
À l'actualité au Niger, avec le préfet de Tillabéri qui publie un arrêté où il interdit la circulation des motos dans le nord-est de cette ville située dans l'ouest du pays à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, en rappelant que demain, jeudi, c'est un jour férié en raison de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan et que les forces de défense et de sécurité de la zone restent en alerte puisque la semaine dernière, une position de l'armée a été attaquée à Dessa, c'est entre Tillabéri et Ayorou. Non loin de la frontière avec le Mali, le bilan fait état de 18 soldats tués. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria s'engagent pour le règlement pacifique d'un vieux différend frontalier. On évoquait hier matin sur cette antenne ce sommet tripartite tenu en début de semaine à Conakry sur invitation du président Doumbouya. Avec Julius Maada Bio et Joseph Boakai, ils choisissent de privilégier la voie diplomatique pour résoudre ce conflit frontalier. La Guinée, on le rappelle, préside en ce moment l'union du fleuve Mano. Et on en sait un peu plus sur ce qui s'est dit lundi et l'apaisement que les communautés locales sont en droit d'en attendre, Guillaume Thibault.
Comme un pacte, les chefs d'État ont affirmé s'engager pour la paix, pour une coexistence pacifique entre les communautés frontalières. Un objectif qui passe par une meilleure collaboration sécuritaire, estime le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Timothy Kaba.
Les mesures nécessitent une coopération approfondie, notamment en matière de renseignement et de coopération militaire, dans le cadre d'un projet transformateur. Je crois que ce sont des actions auxquelles les dirigeants se sont engagés et que nous sommes prêts à mettre en œuvre.
Héritage direct du tracé des frontières par les anciens colons, figé en 1964, ce conflit a divisé des communautés qui vivaient sur un territoire commun, notamment les Kissi, explique le chercheur, spécialiste des problématiques liées aux frontières, Faya Moïse Sanduno.
En soi, la communauté elle-même n'a pas de problème, sauf que par moment, lorsqu'il y a des questions de souveraineté, les gens, par peut-être esprit de nationalisme, ont parfois tendance à privilégier l'esprit nationaliste par rapport à l'appartenance communautaire ou identitaire.
Dans le communiqué final de l'Union du fleuve Mano, la volonté de faciliter des mécanismes de communication rapide entre ces communautés et les forces de sécurité est inscrite. Un nouveau sommet est prévu d'ici un mois pour mettre en œuvre toutes les requêtes des chefs d'État.
Guillaume Thibault et Faya Moïse Sanduno que vous entendiez il y a quelques minutes. Il était l'invité de Mathieu Vendrely hier à la mi-journée. Vous retrouvez donc ses explications plus en longueur sur notre application RFI Pure Radio.
La justice belge ouvre la voie à un procès pour l'assassinat de Patrice Lumumba.
Oui, c'est la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui ordonne donc le renvoi en procès d'Étienne d'Avignon. Ancien fonctionnaire, il a aujourd'hui 93 ans. Il est le seul suspect encore en vie d'une plainte déposée il y a 15 ans par les descendants du premier ministre de la RDC, figure incontournable de l'indépendance. Étienne d'Avignon est accusé de participation à un crime de guerre, mais aussi d'être impliqué dans la détention ou le transfert illicite de Patrice Lumumba, assassiné donc en 1961. Pierre Benazet est à Bruxelles.
S'enclenche un compte à rebours qui devrait normalement voir un procès s'ouvrir vers janvier 2027, compte tenu du temps nécessaire à un éventuel appel de la défense d'Étienne d'Avignon. C'est le le calcul de maître Christophe Marchand, l'avocat de la famille Lumumba.
Si on parle d'une enquête sur un crime d'État, ça prend toujours du temps pour que l'État en question, auquel on reproche ce crime très grave, fasse l'enquête et puisse commencer un peu à chercher la vérité, puisque l'objectif même du crime d'État, c'est qu'il ne soit jamais découvert. Donc ça prend du temps, ce n'est pas inhabituel. Et je pense que maintenant, on est arrivé à un moment avec des décisions qui établissent les crimes coloniaux et qui établissent les responsabilités et la nécessité de les réparer.
Et en l'occurrence, la responsabilité d'Étienne d'Avignon, jeune diplomate en poste au Congo, et selon l'accusation d'avoir transmis et écrit des ordres. Parmi les milliers de documents d'une commission parlementaire de 2001, se trouvent des téléx diplomatiques dans lesquels figurerait son nom. Il est accusé de crimes de guerre, en particulier pour le transfert illégal d'une personne protégée durant un conflit armé. La justice a donc estimé ce mardi que les faits ayant mené à l'assassinat de Patrice Lumumba ne pouvaient pas être prescrits. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
La République démocratique du Congo, proprement dite, le Rwanda et les États-Unis également. Hier, deux réunions séparées se sont tenues à Washington entre les Congolais et les Américains d'une part et entre les Américains et les Rwandais d'autre part, avec l'idée de réunir aujourd'hui les trois parties dans un contexte diplomatique et sécuritaire qui se crispe encore chaque jour davantage. Vous en retrouvez les explications de Patient Ligaudi sur RFI.fr. Et puis un mot du Congo, Brazzaville et cette réélection annoncée hier pour Denis Sassou Nguesso, le président sortant crédité de près de 95% des voix, selon les chiffres dévoilés par le ministre de l'Intérieur. La Cour constitutionnelle doit maintenant confirmer ce résultat pour que le chef de l'État sortant soit investi pour son cinquième mandat consécutif. Brazzaville, il est 7h44. Andréane Mellard, c'est à vous.
Même heure à Paris. Merci Edouard. Et il est 6h44 en temps universel et à Dakar. Un point sur l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mellard.
De nouvelles frappes cette nuit à Téhéran. Deux immeubles totalement détruits, nous disait notre correspondant dans la capitale iranienne. Il y a une demi-heure, l'Iran qui enterre aujourd'hui à la mi-journée Ali Larijani, son très puissant chef de la sécurité intérieure, mort hier dans des frappes israélo-américaines. Sa mort sera vengée, assure ce matin le chef de l'armée iranienne. Les frappes se sont en tout cas poursuivies ces dernières heures. Des tirs israéliens ont fait ce matin au moins 6 morts et 24 blessés dans le centre de Beyrouth, la capitale libanaise. L'État hébreu a aussi commencé à bombarder la région de tirs dans le sud du pays. Le réseau électrique rétabli à Cuba après plus de 24 heures de panne générale sur l'île des Caraïbes. En parallèle, la pression mise par Washington s'accentue. Pour Marco Rubio, les mesures annoncées la veille par le gouvernement permettant à la diaspora cubaine d'investir sur l'île et d'y détenir des entreprises privées sont loin d'être suffisantes. Tout agresseur extérieur se heurtera à une résistance indestructible, a réagi de son côté sur X le président cubain. La justice belge ouvre la voie à un procès pour l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre de RDC assassiné en 1961. La chambre du conseil du tribunal de première instance a ordonné le renvoi en procès de l'ancien fonctionnaire Étienne d'Avignon. Et puis l'actualité, c'est bien sûr ce changement de maillot pour l'étoile de la CAN 2025, les Marocains désignés champions d'Afrique. On en parle tout de suite. Notre revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors le Maroc, finalement vainqueur de la CAN 2025.
Quel coup de tonnerre, s'exclame Afrique Foot, près de deux mois après la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc, 1-0 après prolongation. La Confédération africaine de football, la CAF, a donc annoncé hier soir avoir accepté l'appel du Maroc. Le Maroc est déclaré champion d'Afrique, au détriment du Sénégal, qui perd sa couronne, remportée sur le terrain. Une décision qui provoque stupeur et un énorme tollé. En effet, renchérit-afrique.com, cette décision rarissime à ce niveau provoque une vague de réactions et ouvre la voie à un possible recours devant le tribunal arbitral du sport. Le football africain se retrouve au cœur d'une controverse majeure. C'est une annonce qui secoue tout le continent.
Le Sénégal, en premier lieu, hein, bien sûr, le pays déchu de son titre. La presse peine à y croire.
La blague du siècle, lance le Soleil en première page. À défaut de la pelouse verte, le tapis vert, s'agace le quotidien dakarois. La CAF déroule ce tapis au Maroc et lui offre un trophée qu'il poursuit depuis 1976, une décision qui frôle le grotesque. La grosse farce continentale fulmine Wolf Quotidien qui qualifie la décision de la CAF de ridicule. Le foot africain vient de vivre un séisme juridique sans précédent, soupire Dakar Actu. Pour le Sénégal, c'est une désillusion brutale. Pour le Maroc, un sacre entaché de polémiques. Et pour la CAF, un dossier brûlant qui continuera d'alimenter les débats sur la gouvernance et l'arbitrage du foot africain.
La presse de la sous-région s'emporte aussi.
Tsunami footballistique lance en effet aujourd'hui à Ouagadougou, tout simplement scandaleux, tempête le Djeli à Conakry. Le ressentiment et la colère des Marocains étaient peut-être compréhensibles à certains égards, mais le verdict du jury d'appel de la CAF est tout simplement inique, s'exclame le site guinéen, d'autant qu'il semble découler du chantage et des pressions diverses que les Marocains n'ont cessé d'exercer. À cet égard, la prétendue application d'une quelconque règle mise en avant par la CAF s'apparente davantage à un bel enfumage.
Les dieux du football sont tombés sur la tête, peste Ouakatsera.
Cette décision aurait été moins ridicule si elle avait été prise le soir même de la finale ou tout au plus le lendemain. C'est un véritable séisme dont le foot africain se relèvera difficilement car, estime le site burkinabé, même si les Sénégalais ont failli à l'esprit du fair play, ils bénéficient de circonstances atténuantes. Non seulement après s'être rendu compte de leur erreur commise sous le coup de la passion et de la frustration, les lions conquérants étaient revenus sur le terrain, mais ils avaient présenté leurs excuses au monde entier. Les fautifs ont écopé de suspensions de matchs et d'amendes financières, ce qui devait largement faire l'affaire.
Mais non, rétorque le site marocain Le 360.
Si une équipe peut quitter le terrain, interrompre une finale, puis revenir sans que cela soit juridiquement qualifié, un précédent dangereux est créé, estime Le 360. Un précédent qui aurait pu légitimer à l'avenir des formes de pression inédites sur le déroulement des matchs. La bataille engagée par la Fédération marocaine de football était donc celle de la cohérence réglementaire, s'exclame encore le site marocain. Avec ce verdict, la CAF fixe une limite claire. Le football ne peut fonctionner que si ses règles sont respectées, indépendamment du contexte, de la pression ou des enjeux. Quitter le terrain, interrompre un match, contester le déroulement du jeu par des actes, ces comportements ne peuvent être banalisés.
Express, autre site marocain, enfonce le clou.
C'était une finale marquée par une infraction au règlement, suivie d'une attente pesante, d'une tension suspendue. Puis, en un instant, tout s'est libéré. Dès l'annonce de la décision du jury d'appel de la CAF hier, une ambiance de joie s'est emparée de Rabat. Les klaxons ont retenti comme des cris longtemps contenus. Les drapeaux ont envahi la nuit et les autres villes du royaume se sont levées d'un seul élan et d'un même souffle et ont exprimé une même fierté. Car cette victoire, conclut Express, ne se discute pas, elle s'impose, elle rétablit l'équilibre et permet au Maroc de retrouver sa place incontestable au sommet du foot africain.
Frédéric Couteau pour notre revue de presse africaine. La Fédération sénégalaise de foot, en tout cas, a annoncé son intention de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport. Avant cette réaction, Sofiane Amazian a interrogé le journaliste sportif et spécialiste du foot africain, Hervé Penaud.
Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous.
On l'a appris hier, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de retirer la victoire du Sénégal lors de la finale de la dernière CAN et de donner la victoire à la sélection marocaine sur tapis vert, victoire 3-0 des Marocains qui remportent donc la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Hervé Penaud, êtes-vous surpris par cette décision du jury d'appel ?
À surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est un véritable séisme pour le football africain. Vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'on voit ça, qu'une finale de ce calibre-là a un résultat qui est inversé. Ça paraît assez invraisemblable, mais en revanche, il y a la surprise, l'effet de stupéfaction, même on peut aller jusque-là. Mais d'un autre côté, on sait que ce trame, depuis des semaines et des semaines et des semaines, depuis la fin de cette finale, évidemment, plein de tractations en coulisses pour justement essayer d'inverser le résultat. Car il faut bien comprendre que les Marocains, depuis cette finale perdue, et la manière dont ils l'ont perdue, ils ont en tête de pouvoir remporter la CAN sur tapis vert, parce qu'ils se disent que la manière dont les Sénégalais ont quitté le terrain n'était pas normale. C'est peut-être ça qui a fait que Brahim Diaz, qui, rappelons-le, a vu un pénalty en fin de match qu'il a raté. C'est peut-être lié à ce manque de concentration, à tout ce qui s'était passé. Et surtout, pour eux, ça fait partie des règlements. À partir du moment où une équipe est sortie du terrain, eh bien, elle n'avait pas la possibilité de revenir et donc il devait gagner sur tapis vert. Même si aujourd'hui vous retrouvez Maroc contre le reste de l'Afrique, parce que tout le monde va être un petit peu scandalisé par cette décision, mais c'était d'une certaine manière, ce n'était pas leur problème, j'allais dire. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer ce qu'ils considéraient être comme un bien.
Est-ce que la temporalité de cette décision du jury d'appel vous interpelle ?
Oui et non. Elle n'interpelle pas parce que de toute façon, il fallait qu'il y ait déjà une première décision. Après, ils ont fait appel de cette décision et les Sénégalais feront appel évidemment devant le TAS, parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Donc, ça a suivi son chemin normal. Mais ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est qu'il y a eu des pressions très fortes qui ont été posées sur la CAF dans son ensemble, d'une certaine manière, et notamment via la CAN féminine, par exemple, qui devait se dérouler au Maroc. Et qui, au dernier moment, a été décalée, ben parce que du côté des Marocains, on a mis une pression très forte pour qu'elle ne soit pas ailleurs, qu'elle reste peut-être chez eux, en attendant les décisions du jury d'appel, et éventuellement du TAS, s'il avait fallu aller au TAS. Alors vous vous rendez compte, en fait, d'une certaine manière, cette CAN féminine a été prise en otage pour ces décisions-là, et c'est assez incroyable.
Vous parliez il y a quelques instants de possibilité de recours au tribunal arbitral du sport. Est-ce que d'ores et déjà, on est en train de travailler du côté de la Fédération sénégalaise à trouver des solutions pour retrouver cette couronne, retrouver ce trophée ?
Ah, évidemment, évidemment. Alors là, il y a d'abord l'effet de sidération, hein, en premier lieu, parce que personne ne s'attendait à ça. Ça a pris un peu tout le monde comme ça de court. Et puis maintenant, dès qu'ils vont recevoir notification de la sanction, eh bien, à ce moment-là, ils vont faire appel devant le TAS. Ils ont une 21 jours pour pouvoir le faire. Et puis, il va se mettre en branle, mais, comme d'habitude, un système. Donc, d'une certaine manière, on saura quel est le vainqueur de la CAN que dans quelques temps. Alors là, on parle des juridictions sportives, parce que le TAS est la dernière juridiction sportive. Je ne sais pas si après, vous pouvez aller encore plus loin, peut-être, que les juridictions sportives, puisque de toute façon, du côté du Sénégal, il n'est pas question de rester les bras croisés.
Est-ce que cette décision peut écorner l'image de la Coupe d'Afrique des Nations et plus globalement du football africain ?
Oui, d'une certaine manière, ça écorne hein, l'image du football africain, parce que vont dire les gens qui ne suivent pas d'habitude cette compétition ? Alors au départ, elle était très bien organisée, ça se passait très bien, et qu'on voit une finale dans un tel chaos, et qu'un vainqueur n'est toujours pas décidé quelques mois après la fin de la compétition, eh ben, le résumé classique, ça va être « Ah ben en Afrique, c'est toujours un peu différent ». Non, en Afrique, ce n'est pas différent. En Afrique, il y a des règles et elles devraient être respectées par tout le monde de la même manière. Malheureusement, aujourd'hui, l'image du football africain va être entachée parce qu'une nouvelle fois, on va trouver des choses à redire. Et malheureusement, pour une épreuve qui était magnifique, qui avait un très, très beau vainqueur, et surtout, ça avait été une des plus belles CAN qu'on a vues depuis très, très longtemps en termes de jeu et de qualité de jeu. Et voilà, et au final, on va se souvenir d'une chose, ben, c'est de la polémique qui a engendré cette finale et aujourd'hui de sanctions qui sont absolument incroyables et d'un séisme qui touche le football africain.
Merci beaucoup Hervé Penaud.
C'était un plaisir.
Hervé Penaud, journaliste à l'équipe spécialiste du foot africain. Il répondait à Sofiane Amazian. On revient évidemment en longueur sur cette décision du jury d'appel de la CAF et sur les réactions que cela suscite sur notre site. Les mots, notamment plein de colère de Claude Leroy, l'ancien sélectionneur du Sénégal, qui parle, je cite, de décision grand guignolesque de la part d'incompétents qui dirigent le foot africain. Voilà, fin de citation. C'est à retrouver sur l'onglet Afrique de notre site RFI.fr. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre analyse sur ce changement de titre pour cette CAN ? Juan Gomez et toute l'équipe d'Appel sur l'actualité vous attendent à 8h10, temps universel. Le standard, c'est le 33 9 693 693 70. Maman, ce matin, vous nous dites que la très très démocratique République innove une fois encore en matière de démocratie.
Oui, une fois encore, notre pays, le Gondwana, montre qu'il mérite amplement sa place en pole position du peloton des pays les plus démocratiques du monde. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la très très démocratique république. Voici une réforme électorale révolutionnaire qui va chambouler la vie politique mondiale. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, qui en est l'initiateur, même s'il en sera le principal bénéficiaire. Eh bien, c'est le Gondwanais lambda qui a concocté ce projet extraordinaire qu'on va appeler l'élection unique, ou sous son appellation gondouanaise, élu jusqu'à fatiguer, ou alors élection en CDI. De quoi s'agit-il ? C'est très simple. Désormais, en République très très démocratique du Gondwana, quand tu gagnes les élections, quelles qu'elles soient, tu ne remets plus ton mandat en jeu tous les 4 ou 5 ans. Non. Tu es élu en contrat à durée indéterminée jusqu'à ce que tu sois fatigué. Le Gondwanais lambda, ce citoyen souvent dupé mais jamais dupe, a eu cette idée lumineuse parce qu'il est fatigué de toujours aller voter pour président fondateur et de voir que tous les Gondouanais en ont fait de même, vu le score himalayesque de sa victoire à plus de 99% au premier tour et qu'il a crié jusqu'à perdre sa voix comme moi aujourd'hui. Le principe est d'une simplicité révolutionnaire, on vote une seule fois et le président reste en poste jusqu'à ce qu'il soit fatigué ou alors jusqu'à ce que les électeurs soient fatigués. C'est ce qu'on appelle dans les textes officiels la démocratie participative de l'épuisement. Premier avantage, on économise l'argent des élections. Fini les bulletins de vote, les isoloirs, les huissiers, les observateurs internationaux qui faisaient des têtes pas possibles quand les urnes arrivaient déjà pleines. Cet argent sera directement réinvesti dans la construction des nouveaux palais présidentiels. Deuxième avantage, la stabilité. Vous savez, ce qui tue les économies gondouanaises, c'est l'incertitude. Avec élections élues jusqu'à fatiguer, mais les investisseurs savent exactement à qui verser les gombos pour avoir les marchés. Dans les milieux financiers, on appelle ça la lisibilité institutionnelle. Troisième avantage, ça règle définitivement le problème de l'abstention. Bah oui, puisqu'il n'y a plus d'élections, mais il ne peut y avoir d'abstention. C'est mathématique. Président fondateur a lui-même déclaré une fois, un peuple qui s'abstient est un